Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. À certains moments de sa vie, chacun peut éprouver le besoin d'imaginer à nouveau son futur, de s'interroger sur ses désirs, de s'ouvrir à la transformation. Mais le problème, quand on en est là, c'est qu'on ne sait pas exactement par quelle boule prendre. Il y a une méthode qui s'appelle le voyage du héros, qui initialement a été créée pour raconter des histoires, par exemple la guerre des étoiles, et ça a été repris par des psychologues pour nous faire avancer sur notre propre mythe. Et aujourd'hui, je reçois Sosten Galbrin, qui est un comédien, metteur en scène, mais qui est également un thérapeute. Et il a monté cette méthode avec Mélanie Briand et Fabienne Bailly. Et aujourd'hui, on va expliquer ce que c'est que cette méthode, comment, étape par étape, on arrive à définir son mythe et on arrive à accepter son démon, mais aussi tout ce qui constitue le désir que l'on peut avoir. C'est une conversation qui va forcément vous être utile, je pense, si vous êtes dans ces questionnements, ce qui est le cas pour de nombreuses personnes, dont moi, évidemment. Et vous allez voir, c'est une belle conversation, c'est une conversation très douce et très, très chouette. Je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Sosten.
Bonjour Grégory.
On va parler ensemble de l'évolution individuelle de tout à chacun. Et je crois qu'en ce moment, beaucoup de personnes se cherchent le sens de leur vie, cherchent à avoir un meilleur impact sans doute. Ils cherchent à savoir pourquoi ils sont là. Est-ce que toi, c'est des profils que tu rencontres souvent et comment tu l'expliques?
Alors, des profils de gens qui cherchent à savoir ce qu'ils font sur notre bonne vieille planète, oui, sans doute, on pourrait qualifier ça comme ça. Moi, je suis thérapeute, donc les gens peuvent pousser la porte de mon cabinet par cette envie-là de découverte ou de recherche de sens. Très souvent, il y a une souffrance qui les amène à pousser la porte du cabinet. Derrière cette souffrance, souvent, ce qui s'associe, c'est en effet une recherche de sens, quoi.
Et tu t'appuies en tant que thérapeute, mais aussi en tant que comédien, on peut dire ça, sur le voyage du héros. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que c'est et pourquoi tu t'appuies dessus?
Ok. Alors oui, en effet, moi j'ai une double casquette. J'ai été comédien, je le suis encore, mais j'ai vraiment plus le temps de me consacrer à l'apprentissage de textes ou à la création de pièces de théâtre de façon artistique. Donc je fais encore un petit peu de théâtre via le Théâtre Forum, mais le gros de mon activité, c'est quand même la thérapie et j'associe théâtre et thérapie. Pourquoi le voyage du héros? Parce que Joseph Campbell, donc, qui est ce mythologue universitaire américain qui a fait un travail incommensurable sur l'étude de tous les mythes qu'il a pu trouver sur la planète, qui partent des grands textes sacrés, la Bible, le Coran, les textes bouddhiques, la Torah, enfin voilà, ces textes-là. Et puis, il s'est intéressé aussi aux cultures des peuples premiers. Il était américain, lui, donc il était très sensible à la culture amérindienne. Et en fait, il s'est rendu compte que, en étudiant toutes ces mythologies, qu'on pouvait dégager une trame commune qui se retrouve dans tous ces textes-là, dans toutes ces histoires qu'on raconte, qu'il a appelé, lui, le monomythe. Donc, il y a plein d'ouvrages, et maintenant, quasiment toutes les créations qui sont faites s'appuient sur ces travaux. Le premier à l'avoir fait, c'est George Lucas pour la Guerre des Étoiles. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est les travaux de Paul Rebillot, qui était lui aussi un homme de théâtre et puis un musicien, comédien, metteur en scène, qui a eu un épisode psychotique dans son existence et qui, en sortant de cet épisode psychotique, c'est-à-dire que lui, il a vraiment perdu toute notion de la réalité, il a perdu son identité. Et en revenant à lui, on pourrait dire ça comme ça, il s'est rendu compte qu'en fait, il avait vécu ce que Campbell décrivait dans Le Voyage du Héros. Et il s'est saisi de cette expérience-là pour créer un processus pour que chacun puisse plonger dans son mythe personnel, pour qu'il puisse aller à la rencontre de ce que tu nommais tout à l'heure comme étant une tentative de répondre à la question « qu'est-ce qu'on fait sur cette bonne vieille planète ? Quelle est notre quête ? Qu'est-ce qu'on vient faire ici ? Qu'est-ce qu'on vient chercher ?» Pour ceux qui peuvent se poser la question en ces termes-là, parce que ça ne parle pas à tout le monde, ça. Mais l'idée, voilà, c'est d'utiliser les travaux de Campbell et de Paul Rebillot pour embarquer les gens dans une aventure où ils vont se rencontrer.
Et du coup... Ce que lui décrit et que je trouve assez phénoménal, c'est que les mythes sont tous structurés de la même manière. C'est ce que tu disais un petit peu tout à l'heure. Et en fait, il décrit cela en 12 étapes. Je trouvais ça intéressant de repasser dans les 12 étapes parce que je pense que les personnes qui nous écoutent, elles vont pouvoir se retrouver dans ces 12 étapes et définir où est-ce qu'elles en sont finalement de ces 12 étapes. La première, c'est une conscience assez limitée du problème. Est-ce que tu peux nous en parler de cette étape-là ?
Alors oui, c'est ce que Vogler, Christopher Vogler a identifié, c'est ce qu'on appelle le monde ordinaire. Moi, dans le stage pour le voyage du héros, on regroupe les trois premières étapes qui sont détaillées pour, notamment pour l'écriture de scénarios. Nous, pour les nécessités du travail sur soi, on a regroupé les trois premières, c'est-à-dire le monde ordinaire, où on est confronté à un problème sans trop savoir ce que c'est. On pourrait le nommer comme une forme d'insatisfaction, quelque chose qui fait que ben, la vie peut être chouette, hein, peut être agréable. On peut avoir déjà réalisé pas mal de choses, fonder une famille, avoir un boulot qui marche. Mais il y a quelque chose qui pourrait nous manquer. Où on pourrait se dire qu'on pourrait peut-être vivre plus intensément, quelque chose comme ça. C'est quand on prend conscience de ça, c'est ce qu'on va nommer la deuxième étape. Je ne sais pas si tu voulais qu'on suive toutes les étapes.
Je trouve ça hyper intéressant, hein, bien sûr.
On appelle ça, donc c'est l'appel de l'aventure. C'est vraiment une caractéristique de la proposition de Campbell, quoi. C'est-à-dire que le héros, il va répondre à un appel. Et là, ce qu'on retrouve chez tous les personnages héroïques, c'est qu'il, non seulement il y répond, mais il va s'engager vers sa quête. L'idée, c'est que dans ce besoin, on pourrait le nommer comme ça, de vivre plus intensément, il y a la nécessité de quitter ce qui est déjà connu. Donc, ça peut faire peur. Ça peut ne pas plaire à l'entourage. C'est ce que Vogler appelle la troisième étape. Je crois qu'il appelle ça le refus de l'appel, quelque chose comme ça. On pourrait le nommer comme ça. Là, pour le coup, c'est l'apport de Paul Rebillot. On appelle ça le premier degré de résistance, c'est-à-dire que c'est plutôt le monde extérieur, plutôt l'environnement qui va nous dire « mais pourquoi tu veux faire ça ? Pourquoi tu veux t'engager dans une nouvelle vie amoureuse ? Pourquoi tu veux changer de boulot ? Pourquoi tu veux t'inscrire à un stage ? Pourquoi ?» Tout va bien déjà, là. C'est déjà bien tout ce que tu as là. Donc on peut mettre des années, des fois, à répondre à un appel, hein. ou ça peut être instantané selon la nécessité de cette force de vie que certains appellent l'énergie de vie, l'élan qui fait qu'on va y répondre ou pas et dépasser ce premier degré de résistance, quoi.
Et alors, je te coupe, mais c'est vrai que quand tu veux changer quelque chose, souvent les résistances, elles viennent de l'extérieur. Et j'ai toujours trouvé ça étonnant. Moi, ce que je me suis toujours dit, mais peut-être que je me trompe, c'est un peu le sens de ma question, c'est que les gens n'aiment pas trop que tu changes parce qu'en fait, ça les met face au fait qu'eux-mêmes ne changent pas. Est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce qu'il y a d'autres choses ou...
On peut le voir comme ça. On peut en effet imaginer que ce que nous renvoient les gens, c'est une projection de leur part qui est assise sur leur propre peur. On peut le voir comme ça. Moi, ce qui m'intéresserait presque plus, c'est de se dire que ces résistances viennent de l'extérieur, mais en fait, elles partent de nous quand même. C'est-à-dire que on appelle ça le premier degré de résistance. Et au niveau de conscience, si on prend le mythe et les propositions de ces grands auteurs, là, on n'a pas encore conscience qu'on crée vraiment tout ce qui nous arrive dans notre existence. Donc, on a besoin de projeter à l'extérieur ce qui, en fait, nous appartient. Et ça nous arrange bien, dans un premier temps, de se dire « Ah, mais c'est l'extérieur qui veut pas. » Et c'est vrai, hein. Si tu me permets une petite anecdote personnelle, moi, je me souviens, j'ai fait des études scientifiques et puis, par des concours de circonstances, j'ai rencontré le théâtre. Et là, vraiment, j'ai reçu mon premier appel. Enfin, maintenant, j'en parle comme ça. Et je me souviens très bien de ma maman, que j'aime beaucoup par ailleurs, mais qui me disait, mais qu'est-ce que tu vas faire? Mais c'est n'importe quoi. Et elle osait à peine me le dire à moi. Elle me le disait à moi, mais elle essayait de convaincre aussi mes amis. Je me souviens d'une fois, elle disait, mais un ami qui s'appelle Antoine, il disait, mais Antoine, mais dis-lui à Sosten que faire du théâtre, c'est un hobby, c'est pas un métier. C'était en effet une résistance à l'appel qui venait de l'extérieur, mais qui pouvait aussi être l'expression de mes peurs, de mes doutes, de tout ce qui pouvait être de l'ordre de « mais j'ai pas de talent, je serai jamais à la hauteur », enfin voilà quoi. Là où on en est dans l'expression de, enfin dans l'explication du mythe ou dans ce survol là, on peut, en tout cas moi dans le stage, je le garde à l'idée du premier degré de résistance. Mais souvent, quand les gens s'inscrivent au stage, par exemple, ils sont déjà en train de dépasser ce degré de résistance là, puisqu'ils m'appellent sans mauvais jeu de mots.
Effectivement.
Voilà, oui.
Et ensuite, donc il y a l'accroissement du niveau de conscience.
Ouais. Donc ça, voilà. Si on reprend donc les 12 étapes, le monde ordinaire, c'est voilà, j'ai pas trop conscience qu'il y a un problème, mais ça commence à germer. Il y a l'appel de l'aventure. Donc là, déjà, on a un niveau conscience qui est supérieur parce que on se dit mais en fait il faut que je bouge, il faut que je fasse quelque chose là. Je vais si je reste à cet endroit-là, je vais m'éteindre, c'est pas possible. Donc on acquiert un niveau de conscience supérieur. Et puis dans le refus de l'appel, oui, alors je suis appelé à faire quelque chose, mais j'hésite. Et puis les gens à l'extérieur de moi me disent mais est-ce que tu es bien sûr de toi? Donc, on en est aux trois étapes, là, au...
Quatrième, même. Surpasser la peur, c'est ça, quelque part.
À partir du moment où on commence à s'engager, c'est-à-dire que on prend conscience que, soit parce qu'on se dit, mais en fait, moi, par exemple, pour ma maman, mais en fait, toi, tu considères que le théâtre, c'est pas un métier, mais moi, je sens bien que c'est un vrai métier et que j'ai envie d'apprendre ce métier-là. Et que, du coup, je passe par-dessus la barrière de ce premier degré de résistance et puis je vais me mettre en chemin. Et quand on se met en chemin, donc il y a des premières petites épreuves qui nous font des petits croche-pieds, qui nous empêchent d'avancer. Et puis, dans les étapes du mythe, il y a une étape fondamentale qui est la rencontre avec le mentor ou avec le guide, selon les auteurs, on l'appelle comme on veut, qui est, lui, une personne qui est dans sa quête, qui a déjà... avancer sur son chemin de vie personnelle et dans son mythe personnel, et qui va nous aider à choisir les bonnes directions, quoi.
Comment dans on les... trouve ce mentor?
Pardon?
Non, pardon, je te coupe, mais je me dis, mais comment on le trouve, ce mentor? Parce que je pense que les gens se disent, ah, c'est super, mais où est-ce que cette personne?
Eh ben, on peut le... Ça peut être lui qui vient nous voir. C'est lui qui peut nous trouver, par exemple. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense au Christ, par exemple, qui disait à ses disciples « Suis-moi ». Alors, c'était un peu vindicatif, mais enfin, c'était un peu... mais les gens y allaient. C'est-à-dire que là, pour le coup, le mentor venait directement à la rencontre. Sinon, c'est parce qu'on va s'autoriser à vagabonder, à chercher, à aller d'expérience en expérience. De toute façon, Campbell, le maître mot, et puis la première page que je ne vais pas te citer parce que je ne vais pas prendre trop de temps non plus, mais la première page du héros Mille et un visages, il démontre que tout est expérience et que de toute façon, tout passe par l'expérience, qui est toujours plus grande et plus vaste qu'on ne le saura jamais de mémoire. Ce mentor, bah, c'est dans les mythes, tu connais Camelot, j'imagine.
Bien sûr.
Tu sais, c'est Perceval qui dit toujours « j'ai rencontré un vieux ou une vieille ». voilà, alors pour Perceval, c'est toujours un peu compliqué, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est porteur d'une certaine sagesse, quoi.
D'accord, ok, je vois.
Voilà, puis alors après la rencontre avec ce guide, on va orienter, nous dans le stage, on a des petits exercices comme ça, où on va se servir de cartes, de tarot, ou des cartes qui peuvent être inspirantes. On va choisir notre guide, et puis on va se servir de cette carte-là comme d'une boussole. Moi, à chaque fois, tous les ans, je suis soufflé parce que ça fonctionne. En fait, on choisit une direction, et puis on va pouvoir poser des questions au guide. Si je reprends la métaphore du mythe, mais en version psy, et version plutôt jungienne, le mythe, en fait, ça correspond au soi que décrit Jung, c'est-à-dire à la capacité qu'on peut avoir à se connecter à quelque chose de plus grand que soi, alors que plus grand que notre moi, notre ego, on pourrait dire ça comme ça. Et qui, en fait, tout au fond de nous, on sait ce qui est bon pour nous. L'idée, c'est de sauter par-dessus les obstacles qui nous empêchent de vraiment sentir ce qui est bon pour nous. Mais en fait, les guides, ils sont aussi à l'intérieur de nous. Alors, selon les obédiences, certains diraient qu'il y a des vrais guides spirituels non incarnés. Moi, j'ai pas besoin de ces croyances-là pour simplement entendre ce qui est juste, ce que je sens juste pour moi. Et c'est la proposition qu'on fait aux gens, en fait, quoi.
Est-ce qu'on peut utiliser l'expression prendre la liberté d'être soi, quelque part?
Bon, c'est beau, oui. Alors, on peut décliner, hein, dans cette phrase, il y a énormément de choses. Prendre la liberté d'être soi, qui est ce soi? Et puis, qu'est-ce que ça veut dire qu'être libre, tu vois? Moi, je suis, ma formation, elle est gestaltiste, donc ça fait partie des thérapies existentielles. Et du coup, dès que j'entends liberté, j'entends aussi responsabilité. C'est-à-dire que l'endroit où on se sent libre, c'est parce qu'on se sent parfaitement responsable de nos actes, de ce qu'on crée, de ce qu'on met en place dans nos vies. C'est le fait d'assumer, en fait, c'est nos choix, nos décisions, qui fait que la sensation d'être libre va émerger, quoi. Mais c'est une belle expression. J'aime bien, comme tu dis.
Moi, je l'aime bien.
Oui, carrément. La liberté d'être soi, oui, c'est le travail d'une vie, encore une fois, quoi.
C'est clair. Et si on continue sur ce chemin, qu'est-ce qui se passe derrière? Une fois qu'on s'est impliqué dans les changements, on a trouvé un guide quelque part.
Oui, qui dans les histoires est extérieur, mais on peut aussi considérer qu'il est à l'intérieur de nous. Et dans la vraie vie, ça peut être l'un ou l'autre. Hein. On peut prendre le temps de méditer et puis de sentir là où on veut s'engager. Et puis, on pourrait dire que Alors, il y a trois formes de guides différents. Il y a le guide qui rassure, il y a le guide qui va nous booster, et puis il y a le guide qui pourrait nous engueuler aussi, nous dire hey, « mais c'est bon, là, maintenant tu arrêtes. T'arrêtes ton cinéma, tu sais où tu dois aller, tu y vas, et arrête de tergiverser, quoi. » Moi, dans le stage, j'explique pas trop ça, parce que je préfère que les gens découvrent ça par eux-mêmes. Et puis, selon les moments de la vie, c'est plutôt l'une de ces trois dimensions qui va nous être utile, quoi.
Après, est-ce que ton guide, ça peut être tes parents ? Pardon, excuse-moi, je te coupe. Parce que du coup, quand tu parles de s'engueuler, ça me fait penser aux parents. Et du coup, ça me pense à ta mère. Je me dis, est-ce que ton guide, ça peut être ta mère ? A priori, pas vraiment.
Ça, c'est une bonne question. J'ai besoin de deux secondes pour sentir, là. Bon, ça l'a été. C'est sûr que nos parents, mon père et ma mère, et j'ai une sœur qui est plus âgée que moi, qui ont été mes guides aussi, ouais, c'est sûr. Après, l'idée, c'est on est sur un chemin, comme tu dis, la liberté d'être soi, qui est un chemin d'individuation, pour faire référence à Jung, quoi. C'est donc à un moment, à moins d'avoir des aspirations qui sont très proches de nos parents, comme moi, je suis issu d'une famille, sauf mes parents, mais toute ma famille fait du vin, ou en tout cas sont dans le monde agricole, et c'est vrai que les exploitations se transmettent de père en fils, donc là pour le coup peut y avoir une guidance assez proche. Moi, j'ai toujours eu un peu l'impression d'être un petit mouton noir dans la famille, avec des aspirations qui j'étais un peu le seul à avoir, quoi. Donc ils l'ont sans doute été, puis après peut-être que, comme j'ai une personnalité rebelle un peu marquée, peut-être que, tu vois, en point d'appui pour ne pas faire comme ils ont pu m'aider à cet endroit-là, ouais.
Je comprends.
Ouais, voilà. Après, les guides et puis en fait on peut se rendre compte a posteriori, des années après, qu'une personne a été fondamentale pour nous dans la rencontre, sans que ce soit une évidence sur le moment, quoi. C'est moi, je suis assez, toujours assez surpris de ça, de me dire mais tiens, en fait cette personne là avait posé une graine en moi qui a germé sans que, ou qui a permis à mes propres graines de germer à l'intérieur de moi. Sans que je m'en rende compte tout de suite, et c'est 10 ans après, je me dis, ah mais oui, moi je pense qu'il s'est passé quelque chose comme ça pour moi quand j'étais petit, tu vois, la culture livresque ou les arts, c'était pas spécialement ce qui était présent dans la famille, on était plutôt une culture sportive, mais je me souviens avoir lu au détour d'un article, quelque chose sur un destin d'un acteur où ça avait fait quelque chose chez moi. Mais je m'en suis rendu compte 15 ans après, quand j'ai pris la décision de tout arrêter pour faire du théâtre, quoi. Donc, on peut pas dire que le guide, ce soit une personne physique. Ça peut être aussi comme un mantra, tu vois, ce que tu nommes là, la liberté d'être soi. Ça peut être un super beau guide aussi, ça, hein. En tout cas, quand on a rencontré le guide, pour avancer sur nos étapes.
Non, pas que je vas-y, vas-y, on a tout notre temps, t'inquiète pas.
Ouais, ouais. À moins que tu veuilles me demander autre chose sur le guide.
Non, en fait, si, il y avait une question que je me posais, mais enfin, c'est pas vraiment une question, parce que du coup, toi, tu vas pas pouvoir répondre. Mais je me disais, quand tu te rends compte, même 10 ans après, de la transformation que t'as permis une personne, moi, je trouve ça vachement important d'être dans la gratitude et de remercier cette personne, même si c'est 10 ans après.